There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 82, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Gaëlle Boschko. Gaëlle, c'est une aventurière hors pair. Un tour d'Europe à vélo à 21 ans, et notamment une traversée des Carpates, une traversée du lac Baïkal, donc 800 km par une température de moins 30 degrés. Et au-delà de ces données brutes, la conversation avec Gaëlle me rappelle que nous vivons une époque merdique, où beaucoup donnent leur avis, à tort et à travers, parfois sans expertise ou crédibilité. Gaëlle n'aime pas parler, Gaëlle parle peu, mais Gaëlle roule et elle fait des trucs. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que j'ai lancé une newsletter hebdomadaire avec un épisode, un récit et une idée de parcours gravel ou bikepacking. Cette semaine, cet épisode avec Gaëlle, un tour du Mont Blanc en gravel et le récit technique de Pat Lamar sur son équipement lors de la Gravel Trobraise. Abonnez-vous, c'est gratuit. Les liens sont dans les notes et sur tous les réseaux sociaux habituels. Sans plus attendre, Gaëlle Boschko. Bonjour, je cherche Gaëlle.
Ah bah c'est elle.
Ah bah c'est elle, bah ça tombe bien, dis donc. Ça va ?
Oui, ça va. Et toi ?
Bah, comment ça n'irait pas ? Imagine un peu l'ambiance en ce moment. Franchement, on pourrait résumer par monde de merde, et ça irait très très bien.
Oui, c'est pas faux.
Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui ?
C'est toi qui vas. De vélo, bah, je suppose. Mais...
Bah, oui, ça, c'est-à-dire que tu fais un peu de vélo, il me semble, donc
oui.
Avec une spécialité pour les longues traversées glaciales ou dans les pays désertiques juste peuplés de monstres horribles et de personnages légendaires. Donc,
Non.
Si, excuse-moi, les Carpates, c'est pas Disneyland, hein.
Oui, non, mais ça va.
Bah si, c'est Disneyland si tu regardes Transylvania Hotel, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Il est super cool d'ailleurs, mais bon.
Oui, c'est bien.
Bon, si tu commençais... Alors déjà, comment on prononce ton nom de famille ?
Normalement, ça se prononce Boiko.
Ouais.
Enfin, je le prononce Boschko, parce que sinon c'est plus compliqué.
Alors pourquoi Boiko ? Ça veut dire qu'il y a une origine quelconque, spécifique, ou c'est juste pour faire chier le monde ?
Ah non, c'est parce que c'est ukrainien, enfin ça vient de l'Ukraine.
Mais ça j'avais compris, hein. Quand c'est ukrainien, c'est que ça vient d'Ukraine.
Et enfin ça se prononce, enfin ça s'écrit, c'est en cyrillique, quoi, c'est Boiko.
Ouais.
Et mon grand-père est arrivé en Angleterre. Les années, je sais pas moi, 50, 140. Et enfin, il a fallu le retranscrire ça en alphabet latin. Du coup, ils ont mis ça qu'un G.
Voilà. C'est aussi simple que ça.
Ouais.
Et t'as encore des attaches en Ukraine ? Tu y vas ? Tu sais où c'est un pays lointain d'où venait ton grand-père ?
Non, enfin, mon grand-père n'avait plus d'attache là-bas. Parce que en fait, il était dans un camp de travail forcé dans la guerre que les Anglais ont ouvert. Du coup, il est parti en Angleterre et il n'est jamais retourné en Ukraine. Donc, je connais personne là-bas du tout.
Ah mince alors, c'est dommage. Ça a l'air d'être un joli pays quand même. C'est un petit peu le bordel des fois, mais ça a l'air quand même drôlement sympa.
Ah, c'est très chouette.
Ouais, enfin, c'est clair.
En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est chouette.
Ouais, c'est clair. Dis-moi. Si tu te présentais, parce que tu as beaucoup de choses à raconter, tu as beaucoup pédalé, tu as beaucoup de kilomètres au compteur, et en plus tu m'as l'air légèrement timide, donc c'est cool, on va bien rigoler. J'adore ça. C'est vrai?
Oui.
Oui, me dit-elle. Oui, je suis un petit peu timide.
Oui.
Non mais t'inquiète pas, je comprends. Moi aussi, je suis timide. Donc, on est entre nous. Tu peux te lâcher, ne t'inquiète pas. Donc, Gaëlle, déjà enchantée. Tes mérites m'avaient été vantés par Louise. Donc, je suis très heureux de t'avoir enfin à l'autre bout du lieu de la ligne. Et voilà, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Bah, ça, on le sait, tu as maintenant donc une ascendance ukrainienne. Mais qui es-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'as-tu de beau à nous raconter sur un vélo ? Voilà, à toi. Tu veux de l'aide ?
Gaëlle. Ouais.
Alors, bonjour, je m'appelle Gaëlle, je fais du vélo, je suis étudiante en architecture à Nantes. Hier, je n'ai pas pu faire d'épisode parce que j'avais cours, donc... j'ai fait un long voyage à vélo qui m'a fait faire une traversée des Carpates et j'ai également traversé le lac Baïkal à vélo.
Ouais.
C'est ça.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et ben voilà, je te laisse recommencer, mot pour mot. Allez, courage.
Je m'appelle Gaëlle Bouchko, je suis étudiante en architecture à Nantes et j'ai pris une année de césure dans laquelle j'ai fait un tour d'Europe à vélo. Et quelques mois après, je suis parti sur le lac Baïkal en hiver, qui était gelé pour le traverser.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené ? Alors déjà, parce que c'est un bon résumé, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui t'a amené sur un vélo ? Et également, comme tu es étudiante, ça veut dire que a priori, tu n'es pas si vieille que ça. Quel âge as-tu ?
J'ai 23 ans.
Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené sur un vélo ? Commençons par le début.
J'ai toujours fait du vélo, même dans une famille qui n'est pas du tout cycliste. Et j'étais partie il y a 3 ans maintenant, pour la toute première fois à vélo toute seule en Écosse, pour 2 semaines. Parce que j'avais envie d'essayer d'être toute seule sur un vélo. Mmh. Et ça m'avait beaucoup plu. Et en études d'architecture, on est beaucoup devant l'ordi. Donc au bout de 3 ans, j'en ai eu un peu marre. Et j'ai voulu prendre une année de césure et juste voir autre chose pendant un an à vélo, du coup. Je savais que ça me plaisait et que...
Récemment,
et que c'était... Enfin, pardon ?
Non, vas-y, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Pardon.
Donc, c'est un moyen de voir des choses qui me plaisent, tant au niveau de l'échelle que de la vitesse, que tout ça.
Récemment, on m'a posé la question « Pourquoi tu fais du vélo ?» Et j'ai été incapable de répondre. Alors du coup, je vais te la poser. Toi, pourquoi tu fais du vélo et qu'est-ce qui te plaît dans le vélo ? Même si tu viens de poser un ou deux éléments de réponse.
Je pense que pour ça, pour le coup, je peux répondre. C'est surtout le fait que le vélo soit peut-être un peu moins encadré que... Enfin, déjà que des voitures. Enfin, on peut passer dans plus d'endroits, on est à mi-chemin entre le piéton et la voiture. Donc on peut pousser le vélo, on peut le pédaler. Et c'est un peu un sentiment de liberté quand on est sur un vélo. Mmh. Où on peut, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois que je fais du vélo, en tout cas, c'est de... d'avoir mon corps et une machine et de pouvoir aller un peu où je veux avec ça.
Est-ce que dans ton cas, c'est aussi une petite extension de tes études d'architecture, dans la mesure où faire du vélo, c'est mettre parfois les choses en perspective, accéder à une autre dimension, aller un petit peu plus loin, et finalement l'architecture, c'est ça, c'est de la perspective, des diagonales et des fuyantes, en gros.
Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est complètement détaché de l'architecture. Ça permet d'en voir beaucoup et ça permet de, enfin de, d'avoir des expériences et de voir des choses qu'on ne verra pas forcément si on est en voiture, au niveau expérience architecturale, mais pour moi, en tout cas, c'est complètement détaché de l'architecture.
Mmh. Ok. Par contre, comme tu as beaucoup, enfin beaucoup, entre guillemets, communiqué sur tes différents projets et tes différents voyages, je suppose que quand même tu as un œil architectural et de composition qui t'a facilité la vie quand même pour tes photos, pour tes vidéos.
C'est une chose que j'apprécie beaucoup en études d'architecture, c'est qu'on apprend vraiment plein de choses très diverses qui ne sont pas forcément toutes reliées à l'architecture. Et ça a beaucoup aidé, je pense aussi, si j'avais fait des études de... J'avais commencé par de la biologie, si j'avais continué sur ça, je pense pas que j'aurais été capable de faire la même chose. Mmh.
Bah, tu l'aurais peut-être fait différemment, en tout cas.
J'aurais fait différemment, oui, ça aurait pas été la même chose.
Récemment, je suis tombé sur un... Parce qu'en fait, il y a un métier que j'aurais adoré faire. Tu sais, on a tous notre petit métier, le métier des petits garçons ou des petites filles qu'on aurait adoré faire et qu'on ne peut pas. Moi, j'aurais aimé être volcanologue. Manque de bol, faut faire environ 35 ans d'études et je me suis arrêté au bac. Donc, ça paraissait mal embarqué, cette affaire. Mais récemment, je me suis redocumenté un petit peu. Je suis tombé sur un mec donc, qui est évidemment géologue à la base. Et qui détaillait les massifs montagneux, tu vois, vraiment, vraiment en détail avec les différentes couches. Donc, pas juste le côté volcan et ça pète et il y a des millions de morts, mais vraiment les différents massifs montagneux comme le Ventoux, comme l'Alpe d'Huez ou l'Izoard. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et toi, peut-être que si tu avais fait des études de biologie, au lieu de faire des vidéos très, bah, très bien composées ou très bien narrées, t'aurais fait un truc sur l'environnement, je sais pas comment le dire, mais l'environnement biologique, on va dire, des endroits où t'étais allé rouler.
Ah, très certainement. Enfin, c'est un truc que j'aime beaucoup, la biologie et la géologie. Oui, c'est juste que l'étude d'architecture, ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est surtout Photoshop, des choses comme ça, ou Premiere Pro, enfin l'utilisation de logiciels surtout, et le fait de raconter une histoire, ce qu'on fait beaucoup en archi.
Ah bon ?
Bah, quand on fait un projet ou quand on fait un bâtiment, le but c'est souvent de raconter une histoire avec, et enfin juste monter un projet quoi.
T'aimes pas parler hein ? Ah bah c'était une bonne idée qu'on fasse un épisode ensemble, alors génial, je sens que je vais faire des longs monologues, je vais vous raconter ma vie aujourd'hui. Donc, bon, malgré tout, ton voyage en Europe, il avait quand même une thématique qui s'appelait Bike to the Blocks ou Around the Blocks, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc ça combinait, si j'ai bien compris, ton goût pour le vélo et ton goût pour l'architecture urbaine. Et c'est tout à fait contradictoire, ton goût pour rencontrer des gens et parler avec eux.
Oui.
C'est ça ? Bon, allez, là, je te laisse m'en parler un petit peu plus. Avec force détail, s'il te plaît.
Ça, c'était l'idée de base pour justifier une césure, de partir découvrir différentes cultures cyclistes en Europe. Et expérimenter différentes infrastructures qui ont pu être faites autant dans les pays du Nord que dans les pays plus du Sud, desquels on parle peut-être moins que Amsterdam ou Copenhague. Et donc c'était de faire une sorte de... Enfin, d'une part un inventaire et de aussi rencontrer des personnes, soit des personnes de mairie ou des utilisateurs ou des choses comme ça. Et finalement, ça s'est pas tellement fait parce que enfin, la barrière de la langue était trop forte. Et par exemple, quand je suis arrivé en Espagne, je parle pas du tout espagnol et impossible de converser avec qui que ce soit. Donc ça s'est tombé un peu de côté et cette idée-là s'est pas faite et je suis reparti sur une autre idée pour mon mémoire qui est le fait de camper et le fait d'habiter des endroits qui ne sont pas à nous. Bon, là, je viens de commencer mon mémoire et on verra ce que ça donne, mais juste l'itinérance et habiter l'itinérance et qu'est-ce qu'habiter une tente, que ce soit voulu ou que ce soit imposé.
Sur ton idée précédente, tu n'avais pas vu venir. Est-ce que tu avais. Comment se fait-il que tu n'avais pas anticipé le fait que dans un pays étranger, on parle une langue étrangère?
Ça, je le sais, mais je n'avais pas. Enfin, je ne pense pas que ça va être aussi fort que ça.
Bah, ouais.
Et j'avais pas trop réfléchi à la question.
Autre pays, autre culture, donc effectivement. Mais je t'en veux pas. Une fois, j'ai découvert, c'est en Bosnie que j'ai découvert que les Allemands parlaient allemand. Et je m'en étais jamais rendu compte avant. Et on s'est arrêté dans un camping tenu par un Allemand et envahi d'Allemands. Et ils nous ont nourris de pâtés aux épinards toute la soirée. Bon, cela dit, on a beaucoup rigolé. Et quand il nous a demandé où on allait le lendemain, on lui a dit « bah on va à Sarajevo ». Et là, il m'a regardé, il m'a fait « ja, schön ». Je me suis dit « putain, le con, il parle allemand, en fait ». C'est dingue, quand même.
Ouais, après, la différence de langue, je connais. Enfin, vu que ma famille, côté de mon père, vient d'un peu partout.
Eh oui.
Mais je pensais pas que ça allait être autant un frein à la conversation. Ça a été
surtout que toi tu parles certainement soit tu baragouines anglais, mais peut-être qu'en face ça a pas été le cas.
Ah oui, non, en anglais ça a été pas très utile. Je pense que l'allemand, l'italien ont été bien plus utiles que l'anglais sur la tête du voyage.
Ouais.
Mais enfin, il y a toujours des moyens de converser, c'est Google Translate ou les mains. Enfin, il y a toujours des façons, mais.
Ouais, mais pour rentrer dans le détail, c'est bien pour demander où manger ou pour demander sa direction. Mais pour rentrer en détail dans une conversation avec les mains, tu peux faire plein de trucs, mais ça va pas loin. Quoi.
Oui. Non, voilà, juste ça compte beaucoup quand même, mais.
Ça a ses limites aussi. Sur les infrastructures, notamment de pistes, est-ce que tu as noté, parce que comme tu l'as souligné, on parle souvent, on met souvent en avant Amsterdam, les Pays-Bas et les pays nordiques, mais comme tu l'as noté, on peut être surpris par l'Espagne et par la civilité des Espagnols, de nos amis espagnols et italiens également.
Je change la piste sur l'Espagne. Mais oui, j'ai été ultra surprise en Espagne. Les villes du nord de l'Espagne, surtout au niveau... infrastructure était vraiment bien aménagée. Après, j'ai eu l'occasion de parler avec justement un Espagnol il n'y a pas longtemps qui me disait que oui, il y avait des infrastructures, mais que c'était obligé de rouler sur les pistes cyclables qui ne sont pas toujours forcément pensées par des cyclistes et que là, ça coince des fois. Mais oui, on a que même sur des routes départementales, je me suis senti vraiment en sécurité. Enfin, pas trop. La façon dont il double, j'ai pas été mise en danger, quoi.
Ouais, c'est un petit peu plus. C'est tous les retours qu'on a généralement de l'Espagne. Ils sont beaucoup plus relax. Et là, tu parles du nord de l'Espagne, mais récemment, j'ai eu des échos du sud, mais pas loin, en tout cas, de Alicante. Et c'est très cool aussi, hein, vraiment, pour les cyclistes. Bon, ils sont habitués aussi parce que ce sont des régions où il y a beaucoup de cyclistes toute l'année. Donc forcément, mais bon, en France aussi, il y a beaucoup de cyclistes toute l'année. Et pourtant, ils n'ont pas l'air de s'habituer. On n'a pas l'air de s'habituer.
Non.
Je roule
non,
aussi
non,
en
non,
voiture.
Non.
Mais bon. Et ça t'a fait combien, ça a fait combien de pays et combien de kilomètres, finalement, au total? Pour ce petit voyage
Pour cette année, ça a été c'était 25 000 km.
Ouais.
Et je crois qu'en tout, c'était 27 pays.
Et de mémoire, tu peux me citer les pays ou pas?
Oui. Je suis parti de Nantes.
Nantes, c'est pas un pays.
Je suis descendu jusqu'en Espagne. Non, mais je suis parti de la France et descendu jusqu'en Espagne, Portugal, Espagne. France, le nord de l'Italie, après Slovénie, Croatie, Monténégro, Bosnie, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Re-Ukraine, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, Belgique et le Royaume-Uni.
Et ben voilà, et retour à Nantes.
Retour en... Je suis allé dans la France, j'ai enchaîné avec un stage à Bruxelles.
Ouais.
Donc je ne suis pas du tout rentré en France après.
Ça t'a servi un petit peu de tampon, le stage à Bruxelles, ou tu n'avais pas du tout envie de rentrer à Nantes tout de suite, passe-moi l'expression, mais comme une conne après ton voyage?
En fait, c'était vraiment un coup de chance, ce stage. Enfin, j'étais en Belgique à ce moment-là, à vélo.
Ouais. Enfin,
je montais au Royaume-Uni. Et j'ai vu une annonce d'une agence d'architecture qui proposait un stage.
Ouais.
Donc j'ai postulé et j'ai eu le stage. Et c'est vraiment un coup de chance parce que j'avais déjà, d'une part, j'avais pas trop envie de rentrer à Nantes directement. Et puis j'avais vraiment bien aimé la Belgique. Donc ça s'est juste fait, c'est par chance, quoi.
D'accord. Et justement, quand tu es rentré à Nantes, tu t'es senti comment après cette expérience de la route, cette expérience de la tente, du camping, de l'itinérance et de ne pas être chez soi pendant longtemps? Quel était le sentiment qui prédominait?
Je suis rentré à Nantes qu'en septembre, là, parce que le semestre d'avant, j'étais censé partir en Allemagne étudier pour un semestre.
Mmh.
Et ça ne s'est pas fait à cause du confinement. Donc je suis rentrée à Nantes en septembre et enfin, ça a été parce que j'ai eu le temps, j'ai eu un an de battement entre la fin de mon voyage et le début des cours à Nantes.
Ouais.
Donc j'ai eu le temps de me faire à l'idée.
Donc, ce qui veut dire que t'étais pas super ravie à l'idée de rentrer à Nantes.
À la fin de mon voyage, j'avais vraiment pas envie de rentrer à Nantes directement, non, c'est sûr.
Pourquoi ?
En septembre, c'est juste que c'était retour directement à ce que j'avais quitté un an auparavant. Et j'avais encore envie de voir d'autres choses et de continuer à apprendre au moins une nouvelle culture ou deux. Et pas juste retourner à mon appartement à Nantes, aller à l'école tous les jours, quoi.
Ouais, donc finalement, mon expression comme une conne, c'était un peu ça, quoi. T'avais pas envie de revenir au train-train habituel.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Tu t'es barré vraiment pour le voyage ou parce que tu me dis de quitter Nantes, ça fait un petit peu s'enfuir ou s'enfuir de quelque chose ou de... Enfin, je sais pas quoi. T'es vraiment parti pour le voyage
Pour le voyage
ou pour fuir quelque chose?
Non, c'était vraiment le voyage.
Le voyage. Pourquoi dans ton résumé sur bikepacking.com, t'as choisi spécifiquement de faire un focus sur la traversée des Carpates?
C'est parce que j'ai fait quelques petites vidéos pendant que je suis parti. Mmh. Et j'ai voulu essayer de faire un truc un peu plus conséquent sur les Carpates. Réussi ou non, mais j'avais essayé. Et bikepacking.com voulait faire un article sur mon voyage et ça tombait au moment où la vidéo allait sortir, plus ou moins.
Mmh.
Donc c'est pour ça que c'est les Carpates.
Alors rappelle-moi, les Carpates, c'est la Hongrie ou la Roumanie?
Les Carpates, c'est un peu dans ce coin-là. Ça part de la Hongrie, ça fait une espèce de boucle. De la Hongrie jusqu'à la Pologne.
Mmh.
De la Roumanie jusqu'à la Pologne. Oui, donc Hongrie, Ukraine, Pologne, Slovaquie.
T'as pas vu de vampire?
C'est pas de force. Non.
Non, est-ce que c'est parce que c'est une légende? Ah oui, t'es pas resté assez longtemps. C'est, oui, parce que j'étais en train de me dire, non, est-ce que c'est une légende? Et non, effectivement, c'est parce que t'es pas assez resté
oui,
longtemps.
C'est ça,
ah, ouais, donc c'est pas une légende, il y en a.
Ils attendent, en fait.
Ouais, ouais, ils sont là-bas.
Ouais,
ils sont timides.
C'est ce qu'on va
ouais. Bah oui, en même temps, s'ils sortent que la nuit, forcément. Et puis toi, le jour, tu pédalais, le soir, t'étais cuite. Forcément, ouais. Ça, c'est une rencontre impossible entre Gaël et les vampires.
Ouais, ça aurait pu se faire.
Ouais. Bon, et au bout du compte, qu'est-ce que... Là, t'étais parti en quête de culture. À quel endroit tu t'es dit « Waouh, je suis pas chez moi ». Et à quel endroit donc tu as ressenti le plus large choc culturel, si on peut dire, comme on peut le ressentir, je ne sais pas, quand on va en Inde ou en Chine. Encore, je ne sais même pas, on ne le ressent pas. Tu vois, par exemple, je m'attendais à un immense choc culturel au Japon, et au bout du compte, le choc, il a été au retour. Donc, mais toi, par exemple ?
Moi, ça a vraiment été la Turquie. Déjà parce que c'est musulman. Et enfin, c'est pas du tout la même chose. On est habitué à nos églises dans les villages, et là-bas, c'est, enfin, c'est des mosquées, quoi. Et c'est pas du tout le même. Enfin, le même relation, sociabilité entre les personnes. Et bon, voilà, c'était vraiment la Turquie. En plus, je suis resté le pays où je suis resté le plus longtemps. Je suis resté un mois et demi en temps de traversée. Et donc j'ai vraiment, c'est le pays que je pense que j'ai le plus appris à connaître en plus. Donc ouais, c'était c'est un des pays qui m'a le plus marqué.
Qu'est-ce qui change dans la relation justement en Turquie par rapport à ce que tu peux connaître ou ce que l'on peut connaître? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent?
Bon, déjà en tant que femme, j'ai eu pas mal de petits incidents
Ah ça.
avec les hommes. C'était quasiment tous les jours. Ça, c'était déjà quelque chose. Et puis, c'était aussi le pays où on m'a le plus accueilli, où j'ai été invité dans le plus de maisons, où on m'invitait à prendre le thé tout le temps, où on venait me parler juste comme ça. Et cet accueil, ça m'a vraiment permis de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait et de rester déjà rien qu'une soirée avec des personnes, de comprendre un peu mieux enfin la Turquie. Après, la Turquie, c'est tellement grand que ça changeait en fonction des régions, mais de comprendre un peu mieux la culture.
Pourtant, tu parles pas turc.
Ah non, je parle pas turc du tout. Non, non. Il y a quelques phrases qui reviennent, enfin, que j'ai appris au bout de quelques temps.
Ouais.
Et puis, enfin, le Google Translate, ça a vraiment été le sauveur.
Ouais. C'est vrai que c'est vaste, hein, la Turquie, entre Istanbul, Ankara et le fin fond de la Turquie avec. Avec les voisins un peu encombrants, genre Iran, Arménie, tout ça, c'est vraiment vaste. Donc comprendre un pays aussi vaste, bonne chance quand même.
Oui.
Surtout en un mois et demi.
Ouais, mais oui, j'aurais pu rester bien plus longtemps. J'aurais bien aimé.
Est-ce qu'il y a un
Mais
pays où tu n'es pas assez resté, pardon, assez longtemps à ton goût, que tu aurais voulu ou peut-être soit tu aurais voulu rester plus longtemps, ou après coup tu te rends compte que tu l'as négligé et tu aurais dû rester plus longtemps.
c'est tous les pays des Balkans, enfin, la Slovénie ou la Croatie ou tout ça, qui sont assez petits. Et juste, enfin, j'ai traversé en un ou deux jours à vélo, sans, enfin, en ligne droite, quoi, plus ou moins. Et enfin, j'ai eu pas du tout le temps de comprendre un peu comment ça fonctionnait.
Tu veux dire que tu t'es même pas arrêté à Ljubljana 2, 3 jours?
Si, je me
Là.
suis arrêté à Ljubljana, mais j'ai dû passer au total peut-être une semaine en Slovénie. Après Croatie, oui, une semaine. Après Albanie, j'ai dû passer 2 jours.
Et Bosnie?
Ouais, ça c'est. Enfin, je m'en veux pas, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ces pays. Ouais.
Ouais, c'est la Bosnie qui me manque. J'ai adoré. J'ai bien aimé la Slovénie. J'ai bien aimé Ljubljana. Mais
Ouais.
parce qu'on dirait Annecy, mais au fin fond des Balkans. Donc c'est vraiment magnifique comme petite ville. Puis j'ai vu un ours en plus. Donc je suis quand même plutôt content. On s'est retrouvés. C'était au moment des Jeux Olympiques. On s'est retrouvés dans un village paumé. Et un mec est venu me parler parce qu'il y avait du vélo à la télé. Et puis on s'est retrouvés dans une auberge paumée, où ils avaient recueilli un ours tout petit. Et puis, bah, on a passé la soirée avec le mec, on s'est bourré la gueule avec une liqueur des montagnes. Et le lendemain matin, on s'est réveillé, on savait pas ce qu'on foutait là. On avait tout oublié. Et puis voilà. Et puis après, bah, la Bosnie, Sarajevo, Mostar et puis Srebrenica. Mmh. C'est. Enfin, tu vois, j'y pense, faut aller deux fois par mois. Et deux fois par mois, je me dis, putain, faut que j'y retourne. C'est vraiment trop cool. J'ai mes itinéraires prêts et tout pour faire Sarajevo, Srebrenica à vélo. Il faudra juste que je mette des développements bien adaptés parce que on se rend pas compte en voiture, mais c'est sévère. En plus, il y a pas beaucoup de routes en Bosnie. Il y a énormément de pistes et c'est certainement un paradis du gravel montagneux parce que je crois qu'il y a, je sais plus, une centaine de kilomètres d'autoroute, je crois. C'est très très peu. Donc,
oui, peut-être.
Donc c'est hyper intéressant. Et sinon, les autres pays, tu t'en as retiré quoi ?
J'en ai retiré que finalement, il n'y a pas tant de différence avec la France que ça. Enfin, ça reste l'Europe. Et c'est assez. Enfin, on sent le côté assez européen. Mmh. Et enfin, il y a des pays, la Roumanie, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. On y voit des paysages que des personnes avec qui j'ai parlé. Mmh. Et j'ai adoré tous les pays. Il n'y a pas eu un pays où je retournerai plus jamais, quoi.
Ah bon?
Non.
Vraiment?
Ah oui, vraiment.
Vraiment? C'est promis, ça?
Ah oui, c'est promis. Enfin, je ne sais pas dire, je déteste cet endroit.
Ouais.
Non.
Ah, moi, je déteste l'Inde. Je peux le dire, je ne foutrai jamais les pieds.
Ah ouais. Je sais pas, je vais aller en Inde, mais. Ouais.
Ouais. Ah non, c'est pas possible. Tu as rien que d'y penser, j'ai mal au ventre.
Ah
oui. Ah bah oui, bah, j'ai eu mal au ventre là-bas, je t'assure. Hein. Donc, crois-moi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu pire, mais j'étais avec un Italien, il était verdâtre. Il s'était fait mordre aux fesses par un singe, par un, tu sais, ces saloperies de macaque. Il s'était mangé plein de piqûres anti-rabiques parce qu'il était, bah, évidemment, c'est des saloperies. C'est ces putains de singes, ouais. Ils transmettent toutes les saletés du monde. Et putain, il était verdâtre, le pauvre. Ah, il était entre la vie et la mort. Enfin, je dis ça en rigolant, mais n'empêche que c'est vrai. Et
ouais.
Mais de toute façon, en Inde, entre la vie et la mort, ça veut rien dire, tu vois. Lui, il était pas en point. J'ai vu un mec cramé sur un bûcher. J'en ai vu un autre passer sur le Gange. Il était tout gonflé en plus. Mmh. C'est quand même dégueu, hein, on a beau dire. Là, tu vois, le choc culturel, il est intense, quoi. Nous, en France, on ne fait pas cramer les gens comme ça. Puis on les laisse pas flotter sur une rivière.
Ouais.
Encore cramer, non, ça non, va, tu ça, vois. Non. Parce qu'il y a un côté festif, on se réunit autour du feu, c'est marrant. Mais le voir flotter sur la flotte, c'est quand même bizarre.
Je pense que les deux sont affreux.
Ouais, il y a un petit décalage, mais t'as sur l'eau, il était tout boursouflé, il était tout gonflé, il y avait les oiseaux qui volaient autour. Ah, c'était crade, hein, quand même. Mais bon.
Oui.
Voilà. Oui. Et le lac Baïkal, venons-en, tiens, transition parfaite. Le lac Baïkal. Non. À vélo, déjà. C'était camping, hostellerie ou hospitalité des autochtones?
Bivouac, 99% du temps.
Ouais. T'as pas été invité chez les gens ou tu refusais?
J'ai été invité de temps en temps.
Ouais.
Mais ça me mettait des fois, enfin, juste mal à l'aise parce qu'il se pliait en quatre pour moi alors que j'avais pas envie. Ça me mettait mal à l'aise, quoi. Et donc j'ai refusé quelques fois et du coup je campais souvent dans leur jardin ou dans un champ à côté et voilà. Mmh. Et au moins on a pu discuter un peu.
Ouais.
Et bivouac parce que j'adore ça. Enfin,
qu'est-ce que tu aimes dans le bivouac?
Déjà le fait d'être tout seul, enfin d'être vraiment de se poser un peu où on veut et d'être tout seul, quoi, après une journée sur le vélo, juste d'avoir un peu de temps tranquille.
Bah, t'étais déjà bien seul sur le... Qu'est-ce qui change entre le fait d'être seul sur ton vélo et occupé à pédaler, mais bon, pas non plus à une allure course, c'est quand même, je suppose que c'est une allure modérée, et le fait d'être vraiment posé, arrêté dans le sens qu'est-ce qui change entre un déplacement dans l'espace et un pas de déplacement dans l'espace.
Sur le vélo, je pense que j'ai jamais été tout le temps très seul. Il y avait toujours des gens qui m'arrêtaient ou des gens qui parlaient. Ou... Je parlais tous les jours à des personnes, quoi. Et le bivouac, souvent, c'était un coin très joli. Le bivouac était souvent assez chouette. C'est un truc que je suis assez solitaire et ça me dérange vraiment pas d'être toute seule. Et même, j'aime bien ça.
C'est vrai, t'es solitaire.
Oui.
Ah, j'avais pas remarqué, dis donc. T'en as d'autres, des scoops comme ça ou c'était ça?
Non, mais enfin, je veux dire, ça me dérange vraiment pas, quoi. Il y a des gens que ça dérange d'être même tout seul la soirée. Même s'ils sont tout seuls la journée, même s'ils roulent tout seuls à vélo, ils aiment bien être avec du monde le soir. Et moi, je trouve que je préfère être toute seule. Donc au moins, je suis tranquille dans mon champ, quoi.
Regardez ton carré de prairie.
En général, c'était des coins assez chouettes. Enfin, j'ai quelques bivouacs pas cool, mais la plupart étaient vraiment bien.
À part tes soucis en Turquie, on va mettre ça sur le compte d'un décalage culturel plus qu'important avec les hommes. Ouais. Ma femme a vécu le même. Hein. Elle a été obligée d'écourter son séjour parce que le mec d'au-dessus venait taper à sa porte 10 fois par jour. Donc, ouais. Au bout de 3 jours, elle m'a dit « J'en peux plus, je rentre !» Bande de cons. Donc, la Turquie, bon, on ira tous les deux. Hein. Mais ça ne s'est jamais produit ailleurs. Oh, un petit peu en Inde, mais ça va. Non, mais j'aime pas l'Inde, de toute façon. J'aime pas la Bretagne, mais alors l'Inde, c'est au-dessus, tu vois. Dans le... Parce que j'ai rien contre les Bretons. J'ai de la météo est merdique et tout. J'aime pas les petits bateaux, j'aime pas la plage et j'ai le mal de mer. Mais l'Inde, c'est plusieurs crans au-dessus. Hein. Puis la bouffe, c'est l'horreur. Ouais. Ah, puis la bouffe, c'est pas possible. Hein. Là, non, non, non. Bref. Donc, est-ce, à part ce petit décalage, immense décalage culturel, parce que là, faut pas non plus nier quand même, qu'est-ce que t'as eu comme grosse galère ou micro-galère ou petits embêtements du quotidien?
Je crois que le deuxième problème, c'est quoi? C'était les ours. Il y avait pas mal d'ours,
c'est
surtout
pas banal.
Au printemps dans les Carpathes. Mmh. Enfin, au printemps, ils se réveillent tous et ils ont tous faim. Bah. Et j'étais dans les Carpathes, surtout la Roumanie, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ours.
Ouais.
Et c'était un peu stressant de dormir dehors avec tous ces ours. Enfin, j'ai jamais eu de problème, mais...
Mais tu savais qu'ils étaient dans le coin et qu'en plus ils avaient la dalle.
Voilà. Mmh. Et bon, ça s'est fait, hein, mais c'était un peu stressant. Ouais.
T'as vu des traces? Parce que bon, là, ça peut être.
Oui, des traces, ouais.
Ah oui, t'en as vu. Donc c'était pas juste une idée farfelue, on pourrait dire. T'as vu des traces concrètes de vrais ours?
Oui, mais je crois que la Roumanie, c'est le pays. Enfin, je sais plus combien d'ours il y a en Roumanie, mais il y en a des milliers.
Ouais.
Et. Enfin, une fois, j'ai voulu camper quelque part et les gens m'ont juste payé une chambre d'hôtel parce qu'ils voulaient absolument pas que je campe dehors parce qu'il y avait. Enfin, ils m'avaient montré des barrières complètement par terre à cause des ours, quoi. Mmh. Et ils voulaient juste pas que je dorme dehors, quoi.
Bah oui. Et quand t'as dit. Bon, il serait peut-être judicieux que tu dormes à l'intérieur plutôt que dehors, t'as pris les conseils. Tu prends les conseils. En te disant, bon, ils ont peut-être raison, je ne suis pas chez moi, donc faisons confiance. Ou tu t'es dit, mais arrêtez, lâchez-moi la grappe, moi je veux dormir dehors.
Ah oui, ils ont complètement raison, enfin, ils savent mieux que moi. Mmh. Enfin, ça fait des années qu'ils habitent là et qu'ils connaissent l'endroit, enfin, je ne vais pas contredire ça.
Ouais. Je t'enverrai les noms des livres si ça t'intéresse. Il y a un ancien skieur français, un skieur de fond qui s'appelle Olaf Kando. Il est en Savoie, Haute-Savoie ou Isère, quelque chose. Maintenant, il est reconverti dans la construction de maisons en bois. Et il a passé un an dans une cabane en Alaska. Et il a fait un livre qui s'appelle « Un an de cabane », je crois, un truc comme ça. Et il raconte justement, tu vois, qu'il est arrivé en Alaska, qu'il a trouvé un endroit pour monter sa cabane. Et que il y avait plein d'ours qui traînaient autour de sa cabane également. Et qu'il a fallu prendre pas mal de dispositions pour... pour vivre dans la nature et vivre avec les ours. Et c'est plutôt intéressant.
Oui, je regarderai ça.
Mais... je t'enverrai ça. Et à part les ours?
Bon, non, enfin, tout c'est à peu près fait correctement. Donc, quelques petits problèmes mécaniques et il n'y a rien eu qui m'a vraiment bloqué, quoi. Ou qui m'a vraiment dérangé.
Pas de problème. Tout s'est passé comme dans un rêve. Pas de petites blessures,
pas
de mal.
Comme dans un rêve, il y a eu quelques chutes parce que je tombe.
Ah, quand même!
Des choses comme ça, mais c'était rien de très méchant, quoi.
Oui, mais t'es quand même. Ça rentre dans la catégorie petite misère du quotidien.
Oui, ah, il y a des misères du quotidien, il y en a eu plein.
Ah, bah alors, vas-y, raconte!
Mais il faut faire avec.
Bah oui, non, mais d'accord, mais bon, si tu me racontes pas ce que c'est, je te rappelle qu'en début d'épisode, tu m'as dit, oui, à l'école de Nantes, en architecture, on apprend à raconter des histoires avec des immeubles. Et ben là, c'est le moment de me raconter une histoire avec une gamelle. Hein?
Oui, mais je peux dire que je suis bonne à raconter des histoires.
Ah oui, c'est pas parce que t'as appris que tu sais le faire. Tu veux dire.
Ouais.
Allez. Donc, les gamelles. Les gamelles.
Ah mais oui, bah, je tombe assez souvent. Enfin, c'est je sais pas comment je me prends, mais je me retrouve souvent par terre et enfin, c'est souvent des trucs un peu bêtes, des routes mouillées. Enfin, j'avais des chevals marathon qui tour plus qui glissaient beaucoup sur le goudron mouillé. Donc dès qu'il pleuvait un peu, ça commençait un peu dangereux. Surtout que les sacoches, c'était compliqué de gérer le vélo. Et enfin, je suis toute bête, quoi.
Mais tu t'es jamais fait mal, quand même. Juste des ce qu'on appelle des chutes des chutes bêtes, même s'il n'y a pas de chute intelligente.
Oui, c'est des chutes bêtes, ouais. Oui, non, mais c'était juste des petits bleus ou des choses comme ça, quoi.
T'as senti qu'il était... Est-ce qu'il a été plus facile de discuter, enfin, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, en étant à vélo? Ou si tu avais juste fait du stop, alors évidemment, voyage en voiture, c'est quoique si on arrive très bien à discuter. Mais est-ce que tu as senti que le vélo facilitait l'échange dans le côté curiosité, tiens, quelqu'un de loin vient nous voir?
Oui, ben, le vélo, ça a intrigué déjà tout de suite, parce qu'il était chargé, donc il y avait toutes les sacoches, donc les personnes étaient surprises de voir ça et se demandaient... qu'est-ce qu'il y avait dans les sacoches, quoi, en général. D'où je venais, et oui. Où j'allais, et où est-ce que je dormais, et qu'est-ce que je mangeais, et comment je mangeais. Enfin, juste plein de questions. Et pourquoi j'étais toute seule, face à une fille toute seule à 21 ans. Enfin, ça pose... Il se demandait un peu, même juste comment mes parents m'avaient laissé partir, ou, ou des choses comme ça, quoi.
Alors justement, parlons-en. Comment tes parents t'ont laissé partir? Tu leur as pas demandé leur avis?
Ils ont pas trouvé le choix. Mais...
Et ils étaient inquiets?
Ouais, ils étaient très inquiets. Enfin, au début, ils étaient très inquiets des premiers mois. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que je pense que j'allais pas faire trop de bêtises, ils m'ont un peu plus fait confiance, je pense.
Bah, quelles bêtises tu pouvais faire? Bah, à part les petites
avaries. Non, mais que je faisais attention ou que je... Bah... Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils avaient peur que je me blesse, que je tombe, que quelque chose se passe mal. C'est des choses qu'on peut pas toujours prévoir. Et oui, c'est normal qu'ils soient inquiets, mais... Ouais.
Et justement, qu'est-ce qui pousse une jeune femme de 21 ans à partir comme ça à l'aventure?
Bah, c'est...
T'as un quart d'heure pour répondre.
c'est le fait de vouloir apprendre un peu plus sur ce qui m'entourait. Enfin, je connais pas trop la France, mais je connais encore moins les pays qui l'entourent et juste les découvrir un peu. Enfin, je comptais pas tout savoir sur eux, mais au moins savoir un petit peu et savoir, enfin, même au début, avant que je parte, j'aurais peut-être pas été capable de nommer tous les pays par lesquels j'ai été, enfin, de savoir où placer tous les pays par lesquels j'étais placé, je suis passé. Et juste ça m'a permis d'en connaître un peu plus. Et Et c'était pas, je dirais pas que c'était des vacances, mais c'était de oui, de vraiment d'apprendre à découvrir un peu l'Europe, quoi.
Gaël?
Allô?
Ouais, oui, on a
Oui.
été coupé, désolé. Est-ce qu'il y avait aussi un petit côté recherche intérieure? Parce que là, tu es parti pour connaître les autres, mais est-ce qu'il y avait aussi une petite envie de... Oula, j'en sais... T'as pas envie qu'on parle de ça?
Ah non, non, parce que non, non, ça me va.
Non, parce
Enfin,
qu'il y en a...
je.
Non, il y en a... C'était le cas ou pas? Tu avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi? Ou non, ce non, ça va, tu t'en fous.
C'était pas du tout le but quand je suis parti. Enfin, parce que j'en ai appris sur moi, forcément, mais c'était pas du tout une intention. Non, non, du tout.
Mais t'en as appris un petit peu, et est-ce que c'est indiscret de te demander quoi, par exemple?
Enfin, c'est pas indiscret, mais je sais pas si j'arriverai à mettre des mots sur ce que j'ai appris. Bah, c'est juste déjà. Première chose, c'est que. Quand tout allait, des fois les choses allaient pas très bien et que tout s'arrange tout le temps. Enfin, c'était un truc que j'ai vraiment remarqué que quelque chose qui va pas, ça va forcément s'arranger. Enfin, je sais pas, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps arrangé. Et c'est quelque chose que j'essaie de me redire maintenant quand ça va pas trop. Et enfin, je sais pas que je suis capable de tenir. Que je suis capable de tenir, je sais pas, tant de kilomètres sur un vélo chargé ou enfin que je suis capable de faire des trucs, quoi.
Ça te faisait des étapes de combien quotidiennement, en moyenne, ou par exemple le plus haut que tu le plus que tu aies fait?
Le plus c'était 200 et quelques.
Ouais.
Et je pense qu'en moyenne c'était une petite centaine. Enfin, ça dépendait vraiment du dénivelé surtout. Et de mon état, enfin, si j'étais motivé ou pas trop, ou si j'avais des choses à voir ou pas trop. Mais ouais, une centaine de kilomètres en moyenne.
Ton... Je suppose que ta forme fluctuait. Est-ce que tu as connu des jours vraiment creux où t'avais rien dans les cannes, où t'avais juste pas envie de rouler?
Ah ouais, ça a changé beaucoup. Enfin, surtout, en plus, je pense que pour une femme avec le cycle hormonal, ça changeait beaucoup, beaucoup. Et il y avait des moments où enfin, j'étais juste pas motivé du tout, quoi. J'avais juste envie de rester dans ma tente et de pas partir.
Rouler en boule.
Ouais. Et bon, j'essaie de me faire un peu violence, mais
Est-ce que
ouais, c'est sûr.
dès le début, ou est-ce qu'au fur et à mesure, tu t'es découvert, enfin, est-ce que tu avais pleinement confiance, pardon, en tes capacités pour mener ce projet à bien, ou est-ce que tu t'es découvert des capacités insoupçonnées au fur et à mesure? Par exemple, 200 km, est-ce que tu l'as fait en me disant, bon, pas de problème, aujourd'hui, je vais faire 200 bornes, ou alors est-ce que tu t'es retrouvé obligé de faire 200 km?
Je me suis un peu retrouvé obligé. Enfin, je devais être à Tallinn à une certaine date. Et du coup, je suis parti de la Pologne faire de Krakow en me disant bah faut que je sois à Tallinn dans. Je vais quoi, j'avais une semaine pour faire un peu plus de 1000 km, je crois, peut-être 1200, 1300.
Ouais.
Et je me suis pressé toute la semaine et j'aurais jamais pensé être capable de faire 150, 200 km par jour pendant une semaine avec le poids du vélo, quoi. Enfin, mais ça s'est fait.
Et tu étais surprise ou t'en as ça s'est plutôt bien passé finalement, ou t'en as quand même un petit peu bavé?
Complètement bavé, complètement bavé.
À quel niveau?
Au niveau des jambes, c'était beaucoup. J'avais, c'était pas toujours facile. Ben, il y avait un vent de face énorme tout le temps et il fallait que je me force, quoi.
Et tu te disais quoi à ce moment-là? Pourquoi tu devais être à cette étape une semaine plus tard? Pourquoi absolument?
Ça remonte encore après. Parce que je devais être en Allemagne encore plus tard. Parce qu'on était allé à la Tuscany Trail avec Bumtrack. Et du coup, il fallait que je sois en Allemagne pour y aller à temps.
D'accord.
Et donc, il fallait que je me retrouve à Tallinn à temps. Et
ouais. Donc, ça t'a vraiment fait un moteur. T'as été surprise de pouvoir le faire ou tu t'es dit finalement, bon, bah, j'en ai un petit peu bavé, mais bon, je savais que j'y arriverais.
Je pensais que j'y arriverais, mais je pensais que j'y arriverais peut-être un peu mieux que ce que j'ai fait.
Ah.
Et c'était plutôt bien de ça. Mais non, mais ça s'est fait et au moins j'ai appris un peu plus mes limites, quoi.
Ouais, mais elles sont où tes limites alors? Tu les as vraiment approchées, tu les as outrepassées ou t'as encore de la marge? T'as certainement de la marge, je pense.
Non, je pense que j'avais de la marge, mais ça n'a pas été facile quand même, quoi.
Ouais.
Mais
Petite parenthèse, tu viens de me dire que tu avais un rencard avec Bumtrack. Et d'ailleurs, quand je te disais, est-ce que tu as été obligé de faire 200 bornes dans une journée? Vraiment, la contrainte, tu vois, de se dire, je dois aller à tel endroit, il y a 200 bornes, je ne les ai jamais fait, mais il faut que je les fasse. Le premier épisode que j'ai fait avec Sofiane Sehili, c'est ce qu'il m'a raconté, son tout premier voyage. Il m'a dit, j'avais jamais fait 300 bornes, j'ai été obligé de les faire. Et c'est vraiment cette contrainte, tu vois, qui force et qui fait découvrir des capacités, des ressources insoupçonnées. Et ça m'y fait penser bah, déjà pour ça. Et lui, en plus, est également chez Bumtrack. Donc, c'est raccord, c'est marrant. Comment tu t'es retrouvé chez Bumtrack? Sachant que tu as une pratique touristique. Comment, d'une certaine manière, tu t'es retrouvé à être soutenu par une marque?
C'était avant de partir, j'étais en train de me décider sur un vélo, lequel roulait, et je comptais partir sur un Arise en le modifiant en vélo de voyage, en Arise normal. Et je dis, bon, on va envoyer un mail, on sait jamais, juste pour voir, quoi. Enfin, c'est le seul mail que j'ai envoyé. Et ils m'ont répondu en disant que, enfin, ils voulaient faire un peu de promo pour la Race Tour. Et que du coup, ils pouvaient m'en donner un. Donc, ils m'avaient donné un vélo. Et au bout de quelques mois, ils m'ont demandé si je voulais faire partie de leur petite équipe. Et donc voilà.
Bah voilà. Bah dis donc, ça doit faire plaisir quand même.
Ouais, c'est sûr que c'est des gens, enfin, ils sont vraiment gentils et chouettes, donc ça c'est cool.
Ouais. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as produit du film sur bikepacking.com, que tu as vraiment cherché à produire du contenu?
Non, pas tellement. Enfin, la façon dont le film des Carpates a été filmé, où je me filmais en train de parler, c'est parce qu'ils m'avaient demandé de faire ça.
Ouais.
Enfin, ils préfèrent quand il y a un narrateur, quoi, ou quelqu'un qui parle. C'est quelque chose que j'ai pas. Enfin, j'avais jamais fait avant.
Ah, t'as dû adorer ça.
J'ai pas du tout apprécié.
Ah, ma pauvre.
Plus jamais.
Je change de sponsor. Allez vous faire foutre.
Non, mais ils ont bien compris que. Et enfin, au moins, ça m'a permis de savoir. Enfin, si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu savoir. Et.
Ouais.
Donc ça c'était, mais après le fait de filmer ou de prendre des photos, ça c'était dans tous les cas c'était.
Oui.
C'était, enfin je le faisais de moi-même quoi.
Petit point technique, tu filmes et photographies avec quoi?
C'est un Lumix GX80, donc un hybride.
Ouais.
Enfin des plus bas de gamme quoi, pas le plus bas de gamme mais pas trop cher quand même.
Ouais.
Avec un tout petit trépied. En tout petit, juste histoire de le poser. Et voilà. Et puis mon téléphone, souvent relié à l'appareil photo.
Ouais. Comment tu fais tes sauvegardes en voyage quand tu pars un an comme ça, t'emmènes un petit disque dur dédié à ça, un disque dur vraiment de sauvegarde dans lequel on peut insérer une carte mémoire, ou tu te débrouilles autrement? Comment tu fais?
Ah ben, j'avais emmené une petite tablette. Enfin, ouais. Une vieille Microsoft Surface que j'avais achetée d'occasion. Il y avait deux disques durs et puis tout, tout bizarre. Donc je faisais des sauvegardes assez régulièrement sur les ouais. deux disques durs.
Et tu pouvais produire également un petit peu à partir de ta tablette ?
Ouais, ouais, j'étais trop contente de ma tablette. Elle ne me coûtait pas grand-chose et elle marche vraiment bien.
Ouais. Et tu me disais, tu as fait la Tuscany Trail, c'est ça ?
Ouais.
Ouais.
L'année dernière.
Eh ben voilà.
Oui, en 2019.
Eh ben c'était super. Merci pour tous ces détails. J'ai adoré. Ça m'a. Et tu sais quoi ? Ça m'a donné envie d'y aller.
Non, mais c'était. Non, non, c'était très chouette. Enfin, c'est joli, quoi. Et c'était en ouais. groupe. J'avais
puis
jamais roulé en.
Puis on mange bien en plus en Toscane.
Oui, on mange bien. Ouais.
Bon, si tu me racontais comment tu t'es emmanché, si on peut dire, à vouloir traverser un lac gelé. Parce que le côté Europe, machin, on va aller voir les autres cultures, tiens, c'est pas si différent. Ok, ça c'est cool. Mais quelle est la transition vers, bah, pas de problème, je vais aller traverser un lac gelé.
Mais pendant un an en vélo, j'ai forcément passé l'hiver à vélo aussi. Et j'étais dans les Balkans, Turquie, nord de la Grèce, où il faisait froid, vraiment froid. Enfin, c'était assez haut, souvent en altitude. Et j'ai adoré ça. J'ai juste adoré les. Enfin, je vois pas souvent de neige, et je suis pas forcément habitué à la neige et au froid. Et là, j'ai adoré, enfin, les paysages enneigés et l'atmosphère. Et j'avais quelques mois de vacances au début de l'année dernière, enfin de cette année, où je me suis dit que c'est l'hiver, il fait froid, j'ai des mois de libre, donc je vais aller faire un peu de vélo où il fait froid. Et je me suis dit que le lac Baïkal, c'était assez chouette. Enfin, il faisait assez froid et c'est très beau.
Alors, il faisait froid comment ?
Au tout début, quand j'étais au nord, il faisait moins 30 la nuit. Mmh. Et après, il devait faire moins 20, moins 15, moins 20.
Oh.
À la fin.
Ah oh oui, donc là, tu pouvais dormir avec la tente ouverte, hein, il faisait trop chaud.
Presque.
Presque. Comment tu t'es équipé spécifiquement ? Parce qu'il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai fait un épisode avec Jabig, un DJ montréalais, qui lui a traversé le Canada à vélo et notamment toutes les parties glacées. Et on le voit ouais. sur sa vidéo avec masque intégral et tout parce que bah, ça caille. Toi, comment tu t'es équipé ?
Bon, j'ai racheté un duvet énorme. Après, vu que j'avais passé pas mal de temps dans le froid, je savais à peu près comment ce qu'il me fallait et ce qui me fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans le froid. Même juste au niveau nourriture, est-ce qu'il fallait que je mange, est-ce qu'il se conserve bien, et enfin, ce qui gèle, enfin, tout gèle, quoi, cette température. Et enfin, j'ai repris beaucoup de choses de ce que je m'étais servi l'année d'avant, et j'ai racheté quelques trucs un peu plus chauds. Mais le niveau équipement, ça a été assez rapide à réaliser.
La traversée fait combien alors ? Ça fait combien de kilomètres cette balade ?
J'ai pas de données précises, mais ça doit être 850 ou 900
ouais.
kilomètres en tout. Enfin, ça m'a pris 850. Le lac, il fait 800, je crois, kilomètres de long. Et vu que j'ai fait quelques zigzags, ça a un peu rallongé.
Pourquoi t'as fait des zigzags ?
Parce que j'étais coincé, il y avait beaucoup neigé. Et j'étais, ouais. je pouvais pas... suivre juste une côte, il fallait que je suive les routes que les pêcheurs empruntent, les traces de pneus dans la neige
ouais.
sur le lac. Et eux font souvent des allers-retours entre les différentes rives, entre les deux rives.
Donc tu veux dire que c'est pas juste traverser un lac pour se dire bon bah les mecs c'est gelé, j'y vais. Mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé quotidiennement par les gens du coin. C'est pas juste une lubie d'Européen.
Ah, oui.
C'est aussi un endroit qui est traversé par les gens du coin.
Ah, mais il est très. Enfin, il y avait pas mal de pêcheurs sur le lac. Il y en avait assez régulièrement. D'autres, il y en avait plus que d'autres.
Ouais.
Mais. Oui, non, il est utilisé tout le temps, ce lac.
C'est un peu. Ouais, il y a une. C'est, Oui, c'est une voie de circulation comme une autre, finalement.
Oui, c'est ça. Enfin, juste ouais. qu'il est tellement grand que quand
rien.
Il est gelé, ça permet de relier les différentes côtes.
Alors, il est gelé. Ça veut dire que sous toi, tu as quelle épaisseur de glace pour que ça tienne?
Ça dépend, mais c'est entre 75 cm et 1,50 m.
Ouais. Est-ce qu'il y a
Et
des
en
endroits
dessous...
où est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus fin, où tu dois entre guillemets serrer les fesses, ou est-ce que justement tu essayes de contourner est-ce qu'on voit les parce que j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on voit est-ce qu'on arrive visuellement à se dire OK, là la glace elle est fine donc je vais contourner et là ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a des indices de ce type?
Cette année, la glace était particulièrement fine parce qu'il a fait assez chaud cet hiver. Donc, quasiment tout m'avait mis en garde sur. Alors, c'était un peu dangereux par endroit. Et après, surtout le fait que c'est un rift en dessous le lac. Enfin, le lac est dans un rift. Donc, il y a pas mal de mouvements du sol en dessous. Et on voit, enfin, ça brise la glace. Il y a des endroits, surtout au milieu, où il y a, la glace est constamment cassée. Et donc, c'est un peu plus fragile que le reste, parce qu'elle n'a pas été gelée pendant 2 mois entiers.
Le niveau de nourriture, qu'est-ce qu'on mange quand on part comme ça? Parce que si j'ai bien compris, tu as fait ça en full autonomie. Donc, tu dormais sous la guitoune et tu mangeais ton plat de nouilles sous la tente. Donc, tu mangeais quoi?
Beaucoup de pâtes. beaucoup de pâtes.
Ouais.
J'avais acheté du beurre aussi, parce que ça se conservait bien dans le froid. Je mettais beaucoup de beurre. Et que des trucs ultra caloriques, du chocolat, des noix. J'ai adoré, je mangeais beaucoup de purée en poudre, parce que c'était rapide à faire et que ça calait bien. Beaucoup de thé et tout ce qui donne plein d'énergie quoi.
C'était quoi? Est-ce que tu avais une journée type ou un rituel pour te mettre en train le matin? Je suppose que tu te réveillais et que tu rangeais tes affaires. Comment tu justement c'est ma question. Est-ce que tu avais un rituel ou est-ce que c'était un petit peu le bordel tous les jours? Ou est-ce que c'était un petit peu la survie, l'aventure? Ou est-ce qu'au contraire c'était bien bien organisé?
Ah non, c'était à peu près pareil qu'un camping à peu près normal, un bivouac normal. La seule différence, c'est que je prenais le temps de préparer 2 thermos de thé pour boire dans la journée.
Ouais.
J'avais pas d'eau normale, j'avais que du thé et je faisais fondre la glace du lac, comme pour avoir de l'eau. Mais non, après, vu qu'il fait, c'est tout le temps gelé, ma tente était gelée, mon duvet était gelé, mais c'était pas un problème parce que ça fondait pas, quoi. Ça c'était pas mouillé. C'était à peu près normal, hein. Il y a rien de...
Parce que tu me racontes ça comme si c'était, bon, bah ouais, il faisait un peu frais, hein. Il y avait quoi, moins 30, moins 40. Mais bon, ça va, on a vu d'autres, hein. J'habite à Nantes, ça va. Et, je bouffais des pâtes. Comme à la maison, je dormais sous la tente. À part ça, qu'est-ce que je pouvais vous raconter de plus? Moi, j'ai vu des pêcheurs sur le lac. Voilà, c'est tout.
ça n'a pas été facile, c'est sûr, mais...
Alors, qu'est-ce qui n'a pas été
facile? J'ai vraiment apprécié.
Qu'est-ce qui est difficile quand on se lance dans ce genre de périple? Dis-moi, justement.
Moi, les 2 premières nuits, il faisait vraiment froid et j'étais pas équipé pour... aussi froid que ça. Donc, c'était un peu compliqué d'une de prendre un peu ses marques et s'organiser un peu, comme chaque début de voyage, et de en plus essayer de ne pas avoir trop froid. C'était le. Je pense que le plus difficile, c'était les bruits que faisait le lac. Parce qu'il craque tout le temps, la glace casse tout le temps et il y a des mouvements d'eau en dessous de la glace. Et camper au-dessus de ça, c'était pas très rassurant. Et enfin, c'était beaucoup des petits combats mentaux pour essayer d'avancer un peu plus chaque jour.
Et Comment tu t'as fini par... Donc ça, ça a été les deux premiers jours. Ça t'a pris combien de temps pour faire cette traversée?
Ça m'a pris 18 jours.
Ouais. Donc à raison de... Je suis très mauvais en calcul mental. À raison de combien de kilomètres par jour?
J'avais planché sur 50 en moyenne.
Ouais.
Mais avec toute la neige, il y a eu quelques... Ça... J'ai dû faire demi-tour et tout. Donc j'ai plus fait 80. En moyenne. Et bon, voilà.
Et alors, c'est comment sur un lac? C'est plat? Ou il y a quand même des...
C'est plat, plat, mais
c'est plat
la neige,
plat.
C'est pas facile. C'est la neige, c'est, bah, c'est de l'eau gelée, quoi. Et l'eau, ouais. C'est en horizontal. Mais avec la neige, c'était pas facile du tout. Enfin, j'avais des pneus en 2.6.
Ouais, ah ouais, quand
et
même.
C'était vraiment... C'était pas du tout assez pour rouler dans la neige.
Ouais.
Donc j'ai, enfin ça demande beaucoup d'énergie de faire 80 km dans la neige, même si c'est plat.
Ouais.
Avec un vélo un peu lourd en plus.
T'avais quoi comme vélo? Bah oui, t'avais un bombe track du coup. Est-ce que comment t'as trouvé les infos pour adapter ton matériel, notamment ton vélo, à ces conditions? Parce que là déjà des 2.6, on n'utilise pas ça tous les jours dans nos contrées. Et ouais. comment t'as fouillé? Est-ce que tu t'es documenté auprès de d'autres personnes qui l'ont fait récemment? Comment t'as fait ça? Comment t'as préparé ton coup justement?
J'ai lu beaucoup de choses sur juste déjà camper dans le froid, enfin, camper quand il fait aussi froid que ça. Enfin, comment s'organiser un peu pour que ce soit pas trop compliqué au niveau des trucs qui gèlent ou du réchaud qui ne veut pas s'allumer ou de plein de choses. Et après, l'expérience que j'avais eue l'année d'avant, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en général, l'année d'avant, il y a eu des nuits, pas mal de nuits entre moins 10 et moins 20. Donc, je savais un peu comment les choses se passaient. Ouais, et puis c'est surtout pour le vélo où j'ai fait pas mal de recherches. Est-ce que je pourrais prendre des freins hydrauliques ou pas? Est-ce que le liquide dans les pneus, ça gelait ou pas? Est-ce que...
bon, ouais, des questions entre guillemets connes auxquelles on ne pense pas nous ici, mais justement, ouais. Freins hydrauliques ou pas?
Non, je les avais changés pour des freins mécaniques.
Ouais. Et le liquide préventif, ça gèle ou pas?
Bon, j'ai mis des chambres à air.
Ouais, voilà. Bon, oui, de toute façon, sur de la glace, qu'est-ce que tu risquais sur de la glace? Quoique.
Ouais, je pense que la glace, ça coupe, mais...
oui, est-ce qu'il y a un risque de... Autre question bête, est-ce qu'il y a un risque, justement, de passer sur un truc un peu piquant, pas piquant, mais tranchant, qui déchire un pneu? Est-ce qu'il y a un risque, ça, ou est-ce que non, pas du tout, c'est une fausse idée?
Ben moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'avais très peur qu'un bout de glace coupe ou déchire un flanc.
Ouais.
Quand j'étais là-bas, il y avait deux Américains aussi qui étaient à vélo sur le lac et ils avaient peur de la même chose.
Ouais.
Surtout qu'on avait des pneus cloutés et qui sont ultra compliqués à mettre sur les jantes. Et on avait vraiment pas envie de crever parce que ça aurait été impossible de changer la chambre à air. Quand il faisait aussi froid que ça, quoi, en gardant ses mains.
Ouais.
Mais bon, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Donc, je ne peux pas dire.
Si, comment tes proches et amis gardaient la trace de ton truc? Est-ce que tu es parti en disant « Salut les mecs, je reviens dans deux semaines » ou est-ce qu'au contraire, tu avais un tracking GPS?
J'avais un tracking GPS.
Ouais.
Qui a arrêté de fonctionner au bout de 3 jours à cause du froid.
Génial.
C'est
c'était quoi qu'on puisse dénoncer la marque?
Ah, mais c'est pas de leur faute. Hein. C'était un spot, enfin, le truc spot orange là.
Un truc fait pour ça, pourtant.
Ouais. Enfin, c'est juste qu'il faisait vraiment froid et que même si je le mettais dans ma poche, enfin, il gardait pas du tout la charge. Et donc ouais, mais ils sont beaucoup inquiétés quand ils ont vu qu'il y avait pas de plus de nouvelles sur le spot et qu'il n'y a pas du tout de réseau sur le lac, donc je pouvais leur donner aucune nouvelle. Bah, du coup, il n'y a pas eu d'autre choix que d'attendre parce que j'arrive dans l'endroit où il y avait du réseau pour leur envoyer un SMS.
Justement, pour ça, quand tu dis bah, je vais traverser le lac Baïkal, tu arrives à quel endroit et tu pars de quel endroit au lac, et à l'arrivée, tu fais quoi? Enfin, déjà, comment tu emballes ton vélo pour partir? Comment t'as organisé ton voyage vraiment de « je pars de Nantes, salut, et je vais sur le lac ». Et à l'arrivée, comment tu fais? Est-ce qu'il y a du monde qui t'attend? Est-ce qu'il y avait papa, maman qui t'attendait avec un bol de Nesquik? Ou bah, t'es reparti comme t'es venu?
En fait, je suis allé récupérer d'abord le vélo à Cologne, chez Bumtrack.
Ouais.
Ensuite, j'ai pris l'avion jusqu'à Moscou, de là. Et après, j'ai pris le Transsibérien jusqu'à Irkoutsk. C'est une ville, la grande ville sur le bord du lac, presque.
Alors, juste, le lac Baïkal, il est sur quel pays?
Il est en Russie.
Ouais.
Au-dessus de la Mongolie.
D'accord.
Donc, pas mal à l'est.
Ouais.
Donc, il y a eu 3-4 jours de train pour y aller. Une fois arrivé à Irkoutsk, j'ai pris un autre train pour aller au nord du lac, parce que la ville d'Irkoutsk est au sud du lac, donc j'ai pris un train pour aller au nord du lac.
Mmh.
Et ça, c'était un jour et demi de train, parce qu'il fait des détours.
Ouais.
Et je suis parti du nord du lac, ce qui est assez allongé du nord au sud. Donc je suis parti du nord et je suis descendu vers le sud. Je suis retourné à Irkoutsk, et là j'ai repris le train et j'ai repris l'avion.
Puis voilà, puis je suis rentré à Nantes. Donc il n'y avait personne qui t'attendait à l'arrivée?
Ah non, non. Bah, en fait, il y avait les deux Américains que j'avais. C'était quand je suis arrivé au nord du lac, j'ai voulu aller remplir mes bidons d'essence pour mon réchaud.
Mmh.
Et par chance, il y avait ces deux gars qui remplissaient leurs bidons aussi. Et qui m'ont vu arriver avec mon vélo, et là, mais nous aussi on est à vélo, nous aussi on va traverser le lac, donc on s'en croise certainement. Finalement, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient justement à cause de la neige, mais on s'est retrouvé à Irkoutsk 3 semaines plus tard à discuter de nos petites histoires de 3 semaines sur le lac. Donc c'est les seules personnes qui m'attendaient à Irkoutsk, et voilà.
Et si t'étais arrivé quelque chose sur le lac, tu avais quelles options? Parce que pas de réseau, pas de spot, ça sent le roussi quand même.
Ouais, bah, y avait quelques pêcheurs par endroit. Mm. Sinon, je me débrouillais.
Ouais. Eh bien, tu te serais débrouillé comment? Parce que pas de ouais, pêcheurs.
Les pêcheurs étaient super chouettes. Hein, ils étaient, mais enfin, je ne veux pas savoir. Je pense que ça arrive toujours sur le moment.
Peut-être que tu n'as pas envie de savoir. Hein. T'as pas envie de savoir,
ouais,
peut-être.
J'ai pas envie de savoir non plus.
Et question bête, hein, pour nos amis chasseurs et pêcheurs, sur le lac Baïkal, on pêche quoi en hiver?
C'est un poisson qui ressemble un peu au maquereau. J'ai oublié le nom. Ils m'ont dit le nom en russe, mais je m'en souviens plus trop.
Je suis un petit peu déçu quand même.
mais ils m'en avaient donné. Et puis enfin, je mange pas de viande et de poisson, donc c'était la première fois depuis des années que je mangeais du poisson. Voilà.
Bon Gaël, je vais mettre fin à ton supplice. Tu vas pouvoir retourner dans ta cabane sous ta couette. Bah écoute, merci. Je vais te laisser pour la traditionnelle minute de solitude que tu vas apprécier parce que tu vas être seule. Par contre, tu vas devoir parler toute seule. Ah et tiens, petit détail, quand tu es toute seule, est-ce que tu te parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu chantes toute seule sur ton vélo?
Non, enfin, en général, si je passe du temps avec du monde la semaine d'avant, je vais me parler toute seule. Mmh. Mais si je suis tout le temps toute seule, je ne parle pas.
Ouais, tu ne te parles plus. Au bout d'un moment, tu n'as plus rien à te dire, en fait.
Voilà.
D'accord. Ben, moi, je vais te laisser, en tout cas, pour ta minute de solitude. La minute de solitude, c'est un espace dans lequel tu dis ce que tu as envie de dire, un message quelconque de ton choix. Et quand tu as fini, tu raccroches. Et en attendant, merci beaucoup. Bravo pour ces périples. Et puis, j'espère te croiser un jour prochain pour rouler un petit peu. Et puis, voilà. Bah, allez,
merci
Gaël, bonne chance. Je sais, tu sais que tu vas y arriver, tu le sais. Tu as fait 200 bornes à vélo déjà, donc c'est pas une minute devant un micro qui va te faire peur, tout de même.
Si.
Non. Et Gaël, tu sais quoi? Si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas envie, eh ben, tu raccroches. Et puis voilà, c'est pas un problème. Chacun fait comme il veut. La grosse bise, à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Salut. Je voulais quand même remercier, ils ne comprendront certainement pas, mais remercier Bumtrack pour le support qu'ils offrent et qui m'a permis de faire tout ça. Et je pense que j'aurais jamais pu faire ça sans eux. Et puis toutes les personnes que j'ai rencontrées et à qui maintenant je parle régulièrement. Bon, au revoir.